Bienvenue à tous. Ce soir, c'est la fête dans le studio. Non seulement Françoise Cordet s'est rendue libre, mais Guy Senot, avec qui nous n'avions pas travaillé depuis trop longtemps, est venu la rejoindre. Et comme Georges Pagzinski est passé faire un tour à tout hasard, eh bien, il n'y a plus qu'à ouvrir les micros. Ce sera le 4e chapitre de l'histoire du piano de jazz en diagonale, précédé, il va de soi, d'enregistrements de jazz vocal, choisi comme il se doit, à tort et à travers, par votre serviteur. À l'affiche ce soir, deux versions pour le moins inhabituelles du pourtant très classique « Pennies from Heaven » par Frank Rosolino. Dans la première, gravée en 1954 et qui reste la moins connue, ce dernier était l'unique intervenant. Il y jouait du trombone, il y chantait, d'une façon relativement sage, avant son chorus instrumental. Puis, avec l'aide de quelques comparses, il y chantait en vrai fou chantant surpris en pleine crise délirante. Rosolino renouait avec la grande tradition des bargeaux de haute Grèce, des burlesques non sensiques, des Slim Gellard, plus encore que des Babs Gonzales. Après la dernière note de trombone, à environ 1 minute 40, la barque se met sérieusement à tanguer et la raison chavire. D'abord, afin que nul n'en ignore, Frank cite Gellard en toutes lettres, « Mazzo et meatballs »,« Mazzo et boulettes de viande », l'entendrez-vous dire si vous tendez l'oreille. Après quoi, il se lance dans une variété à la fois bredouillante et admirablement articulée de scat, qui fait parfois songer au résultat qu'on obtient en agitant sa lèvre supérieure avec le bord de l'index, tout en chantant. Protocole encore inouï dans un disque de jazz, du moins à ma connaissance, et qui tout naturellement va déboucher sur un passage de scat à la tyrolienne, peut-être bien le premier de l'histoire du jazz vocal, là encore. Voilà, il avait trouvé le moyen de grandir et d'apporter sa pierre à l'édifice. 7 années plus tard, en novembre 1961, il se souviendrait de cette aimable provocation lorsque Reprise, la compagnie que Sinatra venait de fonder, lui proposerait de réaliser un album où il chanterait dans tous les morceaux Turn Me Loose, longtemps introuvable mais accessible depuis 2002 sous étiquette Collectables. Le pianiste Vic Fellman dirigeait une rythmique à laquelle collaboraient Chuck Berghofer à la contrebasse et Irv Kotler à la batterie. On verra que question folie douce, les choses ne s'étaient pas arrangées. Notre homme aurait très bien pu rebaptiser son deuxième « Pennies from Heaven » du titre attribué par Gerald Wilson et Count Basie à une pièce écrite pour le Gillespie Orchestra « Dizier and Dizier » de plus en plus dingue. Du Rosolino pur jus, pure laine, pure énergie et peut-être déjà, mais qui le dira sûrement puisque là-dessus il ne se confia jamais à personne, pure énergie du désespoir. Car la vie décidément est un truc pas ordinaire, sauf qu'il faut faire avec tous les jours. Frank Rosolino l'a fait, il a fait ce qu'il a pu jusqu'à ce que ça casse. Et la cassure serait extraordinairement brutale, extraordinairement violente, extraordinairement sanglante, source d'une horreur que l'on pourrait dire sacrée, tant la tragédie que rien n'annonçait devait remuer en nous des choses lourdes, profondes, obscures. Évoquant cette fin abominable, le pianiste Roger Kellaway déclara: quand quelqu'un fonctionne au rythme de 4 plaisanteries par minute, chacun devrait savoir que quelque chose ne va pas. Mais le rôle que Frank Rosolino s'était assigné sur cette terre de sa propre initiative était justement de faire oublier à tout un chacun que tout n'allait pas au mieux. Tout le monde est heureux tout le temps, c'était le credo qu'il s'acharnait à diffuser autour de lui, en le justifiant par les rires et la bonne humeur qu'il répondait partout où il passait, dès qu'il ouvrait les yeux et jusqu'au moment de laisser retomber ses paupières, épuisé par ce travail herculéen qu'il avait pris à sa charge, allez savoir pourquoi. Une nuit de novembre 1978, quand tout dormait dans sa maison de Los Angeles, il s'est saisi d'une arme à feu, s'est rendu dans la chambre de ses garçons, Jason et Justin, leur a tiré dans la tête avant de retourner l'arme contre lui, comme on dit dans les journaux. Ce que les journaux ne disent jamais, c'est comment ce si drôle de monde peut devenir le dernier endroit où aimer la vie, où s'accorder un peu de tendresse à soi-même pour certains êtres qui, comme par hasard, ont plus de générosité que les autres. Parfois je suis heureux, parfois je suis triste, sometimes I'm happy, sometimes I'm blue, affirme une célèbre chanson. Frank offrit durant ses 30 et quelques années de carrière l'image la plus éclatante du bonheur. Il ne fut vraiment triste qu'un seul soir, mais ce chagrin lui aussi, pour bref qu'il fût, a provoqué de grands ravages.
Every time it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is topside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. Now if you want the things you love, you must have showers. Now when you hear a thunder, baby, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and for me. Matzahs and meatballs. Oh. Don't you know which cloud contains Now when you hear a thunder, baby, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and for me. Every time it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune fallen, yes, fallen all over town. Be sure that your umbrella is topside down, all the way down. Trade them for a package of sunshine and flowers. Now if you want the things you love, you must have showers. Now when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, you and for me. Time it rains.
What?
Matzahs and meatballs. Don't you know each cloud contains?
What?
Now when you hear a thunder, baby, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and for me. Ba-ba-da-ba-do-do-do-ba-do-do-do-ba-do-do-do-ba-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
for you and me.
Les deux interprétations de Penis from Heaven par Frank Rosolino en 1954 puis en 1961. Bon, ben, Georges, puisque vous êtes venu rester, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre.
Ah, vous êtes gentil.
Cordet et Guy Senneau vont vous faire une petite place. Vous verrez, ce sont des gens tout à fait charmants.
Je n'en doute pas.
Alors, qu'est-ce qui vous amène au juste ?
Eh bien, écoutez, alors, nous allons, puisque j'ai une petite place pour vous parler, je crois que nous allons quand même changer d'atmosphère. Vous vous en doutez. Alors, j'ai amené des disques, j'ai amené des petites choses, et nous avons fait ensemble une émission sur Bill Evans, souvenez-vous, sur Kenny Werner, sur l'art, sur son fameux livre « La maîtrise sans effort ». Nous avions évoqué Enrico Piranunzi et notamment le livre de Bertrand Hoth qui s'appelle « Liszt et la pédagogie du piano ». Vous vous souvenez comment je vous ai montré sur la table comment on creusait littéralement dans le piano et comment Bertrand Hoth avait magistralement démontré ça dans son ouvrage. Et puis, on avait évoqué donc évidemment l'art du toucher. Eh bien, aujourd'hui, le piano, ça ne va pas être du tout l'art du toucher, ça en va en être la conséquence. C'est-à-dire, après le toucher, vous avez le son, mais vous avez surtout une chose tout à fait capitale, qui est la résonance. Alors, pour ça, je vous ai choisi deux morceaux dont nous allons entendre juste le début. Sans aucun commentaire de ma part, bien entendu.
Je craignais que vous ne nous proposiez que des résonances.
Alors,
ce qui nous aurait peut-être un peu laissé sur notre faim, quand même.
Je pense que là, peut-être que vous allez être surpris. Je vous propose deux morceaux, juste que le début. Très court, nous entendons le premier. Je vous propose tout de suite, Alain, le second. Mon cher Alain, je vous vois en train d'être de rire un petit peu parce que.
J'allais vous dire, vous êtes zen. Comme d'autres disaient, vous êtes swing.
Alors, écoutez, vous avez entendu la résonance, la manière de toucher le piano et laisser le temps vivre. Il faut bien penser une chose, que le temps de celui qui joue n'est pas le temps de celui qui écoute. Et c'est peut-être la point de départ de notre rencontre aujourd'hui. C'est que le fait d'apprendre à placer un son sur un piano et d'attendre que la résonance se termine pour placer un autre accord, c'est apprendre à vivre le temps d'une certaine manière. Or, ces deux enregistrements, le croiriez-vous à mon cher Alain, selon la formule consacrée, eh bien, imaginez-vous, ont quasiment un siècle de distance. Le premier enregistrement, nous sommes en... C'est un pianiste qui a enregistré ça plus récemment, bien entendu, mais c'est une pièce de Schoenberg qui fait partie des six petites pièces pour piano 1911, opus 19, jouée par Peter Hill au piano. Et la seconde, imaginez-vous, c'est le pianiste de jazz qui va nous occuper aujourd'hui, c'est Fred Hirsch, qui, avec Drew Grace et Tom Rainey, et qui ont enregistré ce disque magnifique qui s'appelle Dancing in the Dark. Et le morceau dont vous venez d'entendre le début, c'est Out of Nowhere, qui a été enregistré donc 3-4 décembre 1992. Autrement dit, tout ça pour faire sentir une chose quasiment impossible à faire sentir, c'est que finalement, ces deux musiques qui ont quasiment 80 ans de distance, disons un siècle de distance, on joue la même chose, parce qu'au fond, quels que soient les styles, quelles que soient les musiques, par-delà les notes, il y a une résonance qui fait appel à notre rêverie intérieure, à notre imagination, et qui nous emmène très très loin, en dehors même des notes que l'on joue. Donc c'est assez peut-être délicat à expliquer. En revanche, le sentiment qui se dégage après le son, ce n'est pas le silence encore, c'est cette durée qui fait que là nous partons. La musique est donnée, et là nous partons. Et imaginez qu'il y ait quasiment donc un siècle qui sépare ces deux enregistrements, c'est quand même grandiose de leur penser. Alors ce que je vous propose, Alain...
C'est très paradoxal d'ailleurs, parce que la musique s'évanouit, et en même temps elle occupe de plus en plus d'espace.
D'espace. Alors j'allais vous le dire, la musique s'évanouit, mais l'espace, et c'était le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est que cette durée fait découvrir un espace qui est immense. Alors maintenant, évidemment, je vous propose de d'entendre les deux enregistrements dans leur intégralité, bien entendu. Le premier morceau de Schoenberg est très court. Il dure, écoutez, simplement, je crois, il dure 1 minute 26, vous vous rendez compte? Et le deuxième ne dure pas longtemps non plus. Out of Nowhere dure 5 minutes. Donc je vous propose d'écouter le premier, et puis d'écouter le second, et après nous nous rendrons à notre rendez-vous, si vous voulez bien. Thank you. Je vous vois pensif, n'est-ce pas, Alain ?
Non, je savoure en tout cas ce qu'a fait Fred Hersch sur ce Out of Nowhere, qui est certainement le plus original de tous ceux que j'ai jamais entendu, et j'en ai quand même entendu quelques centaines au cours de ma longue existence.
Hein. Je n'en doute pas.
Non, c'est d'une intelligence remarquable, et en même temps, ça parle de toute évidence à la sensibilité. Je suis, nous en parlions hors micro, un peu moins d'accord sur ce que fait le batteur, mais nous convenions tous les deux qu'il était finalement très difficile de faire de l'aléatoire à la batterie ou avec des percussions, peut-être parce que, paradoxalement, alors même qu'on est libre de faire exactement ce qu'on veut, on en revient toujours à des figures entendues 100 fois. C'est un peu le drame de ce type de batterie-là. Elle devrait nous étonner, et précisément, hein, on entend les ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, en fait, ce qu'on entend toujours dans ce cas de figure.
C'est ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, la plus grande difficulté dans ce genre de musique, c'est d'apprendre à se taire. C'est assez paradoxal, n'est-ce pas ? Quand on entend un piano comme ça, de la part du batteur, c'est d'en faire le moins possible. Or, évidemment, on est tenté tout le temps malheureusement, d'en rajouter.
Quoi. Parce que pour en revenir à l'idée tout à l'heure, l'espace est vaste.
Alors, l'espace est
et
énorme.
Comme le disait, je crois, Peter Erskine, ça fait peur, donc, l'espace, eh bien, lorsqu'il s'ouvre devant vous.
Voilà, et c'est la peur de l'espace, c'est la peur du silence qui fait qu'on comble. Alors, peut-être, avant de parler de Fred Hersch, quelques précisions sur Schoenberg. La pièce que nous avons entendue, elle a été écrite dans des conditions tout à fait particulières. Ces résonances que vous avez, d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant, je vous ai apporté la partition, elle est étonnante, regardez. Elle tient en une seule page, et ça va de double piano, quadruple piano, triple piano, un décrescendo, et ça se finit avec la wie ein Hauch, comme un souffle. Avec quadruple piano. Et vous regardez la page, je l'ai amené pour vous.
Ben on visualise l'espace,
on
hein, là
voit
encore,
l'espace
voilà.
D'une manière absolument magnifique, avec précisé que le tempo. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le premier accord, Alain, c'est là où ça devient passionnant. Le premier accord, il n'est pas marqué sur la partition, sur le premier temps. Il est sur le quatrième. C'est incroyable. Et vous avez une sorte de va-et-vient entre le temps et la mesure, sur le papier même, qui est tout à fait stupéfiante.
C'est-à-dire que le silence est là d'abord, et alors, le silence parle ensuite.
Alors, voilà, vous avez magnifiquement dit, mieux que moi, le premier accord est sur un quatrième temps, il dure une noire, une ronde et une blanche. Le deuxième accord est sur un troisième temps, qui dure une blanche liée à une autre blanche. Le premier accord repris, il est sur un troisième temps encore, qui dure une blanche et une ronde, et le deuxième accord repris, un deuxième temps qui dure une blanche pointée. Et le morceau se termine, les deux dernières notes, deux croches, si bémol, la bémol, on entend tout ça. Alors j'ai pris, vous voyez, dans l'ordre, je redis parce que c'est très drôle, double piano, quadruple piano, piano, double piano, décrescendo, tout. Et tout ça pour faire sentir quoi ? Pour se faire sentir le rien. Vous comprenez, c'est ça qui est incroyable. C'est pour faire sentir le vide. Comment peut-on, et c'est peut-être la question fondamentale, comment peut-on faire sentir avec une résonance, comment peut-on faire sentir le vide, l'espace et le vide ? C'est-à-dire en fait un vide qui est rempli par celui qui écoute. C'est pas un vide sans rien, c'est un vide qui existe. C'est ça le paradoxe de la chose.
Comment
voyez
peut-on mettre la musique en apesanteur à seule fin de faire mieux sentir le poids de chaque note ? Voilà un autre paradoxe.
Alors ça, c'est le caractère du pianiste génial. Et Schoenberg a écrit cette pièce dans des conditions tout à fait fascinantes, puisqu'il a composé ça juste après avoir assisté aux funérailles de Mahler en mai 1911. Et il fait sonner ses accords comme des cloches en fait, qui se dissipent dans un murmure. Enfin bref. Et Fred Hersch, qu'est-ce qu'il fait ? Un siècle plus tard, 80 ans plus tard, mais c'est un siècle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend le même, j'allais dire, c'est même pas le même concept, c'est la même idée de toute musique. C'est-à-dire qu'il y a le son, et il y a la résonance du son, et après il y a le silence, puis la venue du deuxième son. Vous savez que les enfants apprennent la musique. J'ai une amie qui est violoncelliste, qui fait apprendre la musique à des enfants, à tout petits, avec la méthode Marie-Jaël. Elle apprend quoi ? La résonance, de découvrir la durée du son. Le son, une clochette l'une contre l'autre. Et là, les enfants sont captivés, ils écoutent. Quand le son va s'évanouir, et quand il s'évanouit, reste un temps de suspension. Comment le temps suspend ton vol ? Vous voyez, reste ça. Et ça, c'est peut-être le fin fond qui est l'ineffable de la musique. à laquelle on ne peut pas se raccrocher, ou par des explications d'aucune sorte. C'est une sorte de résonance que le musicien a en lui, et quand il la joue, il faut qu'il apprenne à attendre pour jouer la deuxième résonance, le deuxième son et la deuxième résonance. Et cette gestion du temps est quelque chose de fascinant dans la musique.
Mais vous savez, je vous une parenthèse.
Je vous en prie.
C'est vraiment une parenthèse parce que ça n'est raccordé en rien, en tout cas immédiatement, au discours que vous venez de tenir. C'est que on se sera peut-être aperçu que ce qui était écouté il y a un siècle,
oui,
comme une musique de laboratoire,
oui, ça, absolument,
est devenu aujourd'hui une musique à frissons. C'est une musique qui a des effets épidermiques.
Oui.
Et je me demande dans quelle mesure ça n'est pas quelque chose dont il faut remercier le travail qu'ont effectué précisément toutes sortes de pianistes de jazz à la suite de Bill Evans. Si ce n'est pas toute cette école-là qui nous a permis d'écouter autrement cette musique classique contemporaine du début du siècle dernier.
Vous avez tout à fait raison. C'est une remarque très judicieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend à entendre qu'au bout du compte, vous allez me dire que c'est une banalité effrayante, mais que la musique est une. Et que quand on la joue, il y a vraiment quelque chose de très profond de la part de celui qui la joue et de la part de celui qui écoute. Il y a une sorte de communion dans la résonance et le rapprochement que vous faites de toute l'école des pianistes de Bill. Bill, évidemment, a été Ahmad Jamal, Bill, Monk, d'autres, ont fait vivre les résonances d'une certaine manière. Et ça, c'est tout un art. On est, et en même temps,
Monk, c'est même une grande partie de cette fameuse non-technique qui est une technique supérieure ou transcendante qu'il possède.
Alors, qu'il possède. Mais alors maintenant, Fred Hirsch, lorsqu'il joue, et le titre dit « Dancing in the Dark » a une résonance tragique, parce que c'est un homme qui lutte contre une maladie grave.
Et depuis fort longtemps.
Depuis fort longtemps. Donc, pour lui, jouer de la musique, ce n'est pas aller aux prises uniques acheter, je ne sais pas, un litre de lait. Vous comprenez l'image. C'est quand il joue quelque chose, ça veut dire quelque chose. Il engage tout son être dans le jeu et il apprend à attendre. Et peut-être la plus grande des choses, c'est apprendre à attendre pour que chaque chose soit bien placée. Alors, pour en revenir au jazz, par exemple, une chose fascinante, Dennis McRae, alors là on change de le batteur Dennis McRae chez Count Basie. Quelle est la première chose qu'il a faite quand il est rentré chez Count Basie? Count Basie lui téléphone, lui dit: viens, tu joues dans le big band. J'ai 18 ans, mais qu'est-ce que je vais faire? 18 ans. Ah ben tu viens. Il y a la répétition. Mort de peur, Alain. Mort de peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète. Mais juste à la pause, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Freddie Green qui joue depuis 50 ans dans l'orchestre en train de faire la pompe. Et qu'est-ce qu'il va lui demander, alors qu'il ne prend jamais de solo, Freddie Green, bien sûr. Il joue que les 4 ans. Il lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour jouer dans ce temps. Alors il lui dit, écoute, une seule chose. Une noire est une noire. Une noire pointée est une noire pointée. Une blanche, c'est une blanche. Si tu respectes ça, tout ira bien. Autrement dit, quelle leçon. Autrement dit, tu joues le temps et tu apprends à chaque note à avoir la résonance. Et la chose fondamentale, ça c'est peut-être c'est à peine un conseil à nos amis musiciens, mais on ne travaille pas le rythme sur l'impact, on travaille le rythme sur la durée de l'impact. C'est les impacts successifs qui donnent une durée, et la succession des durées font cet espace transcendant qui fait que l'auditeur est pris dans un engrenage absolument incroyable, une sorte d'alchimie sonore qui fait que tout ce qui se passe entre les notes devient absolument capital. Alors, peut-être un mot de notre ami Fred Hirsch, qui est ce pianiste donc, qui a étudié la théorie et la composition entre 8 et 13 ans.
Il réagit quand il improvise comme un compositeur.
Comme un compositeur, voilà. Il travaille avec Gunther Schuller, la musique classique, la musique contemporaine et le jazz. Il a accompagné Art Pepper, il a tourné avec Woody Herman. Vous vous rendez compte, Sam Jones, il a joué avec Art Farmer, Joe Anderson, enfin bref, avec Charlie Haddon. Il a même ouvert un studio d'enregistrement. Il a joué en trio avec Mark Johnson et Joe Baron, et avec Charlie Haddon aussi. Enfin bref, et il a fait une chose assez curieuse aussi. il a navigué entre la musique classique et le jazz en faisant des arrangements de Debussy, de Fauré, de Satie et d'autres musiciens. Il a cherché dans cette voie-là une sorte de, j'allais presque dire, une sorte de résonance un peu mystérieuse, de quelque chose qui fait, et c'est peut-être le mot qu'il faut prononcer à mon sens, et il me vient en vous regardant et en vous parlant, c'est le mot écho. Il y a un écho quelque part de la musique, et qui est un écho du son qui vient en écho en nous et qui nous parle de nous-mêmes.
À propos d'art de la résonance, mais aussi, et les deux choses peuvent être liées, surtout en jazz, de la distorsion,
oui.
Je recommanderais un disque tout à fait particulier où il ne joue que des standards avec un seul partenaire qui est le guitariste Bill Frisell.
Oui.
Ça date de la fin des années 90. Je ne sais plus quel est le titre de cet album qui a été publié sous étiquette Nonesuch, mais c'est une chose vraiment extraordinaire pour ces deux musiciens-là.
Ah oui, alors nous allons écouter un morceau, si vous oubliez, avec le même personnel, la même date. Et là, regardez, nous étions dans une musique où Out of Nowhere était dilué, un peu perdu dans l'espace. Et là, nous allons entendre une superbe mélodie.
Le titre y invitait. Hein.
Le titre y invitait, absolument. Et bien là, nous allons entendre un autre titre qui nous invite à la méditation et à la résonance. C'est « Wild is the Wind », « Sauvage est le vent ».
Thank you.
Nous entendions une composition qui s'appelle « Wild is the Wind » avec Drew Grace, qui était à la contrebasse, et Tom Rainey, qui était à la batterie. Et nous étions 3 et 4 décembre 1992. Alors, il y a une chose en même temps que nous écoutions cette musique, Alain, qui me venait, c'est « Vous avez l'immobilité de l'auditeur devant le paysage et vous avez l'action de l'interprète qui construit le paysage. » Donc, en fait, là, il y a quelque chose de tout à fait capital dans la perception de la musique de la part de celui qui écoute et de celui qui la fait. Et il faut, quand on joue la musique, arriver à faire passer cette action dans l'immobilité de celui qui écoute. Vous voyez, ça, c'est quelque... Et ça, seule la résonance peut toucher l'autre. Parce qu'en bout, c'est un problème de communication, d'arriver à toucher l'autre.
Vous parlez à juste titre, me semble-t-il, de la construction de l'espace et devant une musique comme celle-là et plus généralement devant le travail de Fred Hersch, ce qui me vient, c'est une métaphore cinématographique. Il y a une technique, un protocole, une façon de procéder que les cinéastes connaissent bien et depuis fort longtemps, qui est l'utilisation de la profondeur de champ. Orson Welles a fait des miracles avec ça dans Citizen Kane, mais il n'est pas le seul, c'est-à-dire disposer des objets dans un espace en perspective, hein, de telle manière que vous ayez une histoire qui se raconte rien qu'à la façon dont les plans s'étagent du plus rapproché au plus éloigné d'entre vous. Et grâce à cette résonance, on a l'impression que justement, Fred Hersch est quelqu'un qui parvient comme ça à disposer dans un espace idéalement nu des objets, à ceci près que ça ne ressemble pas tellement à un plan d'Orson Welles, mais beaucoup à un jardin japonais.
Oh, j'aime beaucoup votre... Vous me surprenez toujours, Alain, à parler.
Tiens donc.
Oui, oui, parce que nous sommes sans filet ensemble. Et je trouve que c'est assez grisant, pardonnez-moi cette parenthèse, mais et là, il y a un film que nous adorons, puisque vous parlez cinéma, il y a un film que nous avons beaucoup aimé, dont ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé, mais un film que je sais que vous aimez beaucoup, c'est Un condamné à mort, s'est échappé de Bresson. Et vous avez donc cette cellule, et vous avez un espace, et vous avez cet espace où il y a cet homme, seul dans la cellule, qui est là, dont on n'entend ni bruit, ni rien. On entend quasi, il se passe pratiquement rien dans ce film. Et c'est une illustration magnifique de ce que vous venez de dire. Alors là, est-ce que Boulez a raison lorsqu'il dit que la création musicale, c'est la confrontation entre une décision et un accident ? Ça, écoutez Alain, quand j'ai lu ça et j'ai entendu ça, ça a une sorte de résonance en
moi. Tu as dit c'est vrai de la peinture, de la littérature, de beaucoup d'autres choses.
Alors voilà, alors ça c'est lors d'un entretien qu'il avait eu avec Claude Samuel en 1995, et effectivement, la décision et l'accident. Décision et accident, donc la volonté et le hasard, l'extérieur.
C'est surtout
la confrontation
des deux.
C'est surtout
une façon, oui, de souligner que s'il n'y a que des accidents, on risque de ne pas aller très loin, et s'il n'y a que de la décision, c'est foutu d'avance.
Alors là, que faut-il faire dans... Alors allons jusqu'au bout, Alain. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Lorsque l'on entend la musique, et que vous entendez ça, le principe même de l'éducation, aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Eh bien, le fondement de toute éducation fondamentale, une éducation vraiment en profondeur, ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. Et vous savez où ça se trouve, Alain ? Ça se trouve dans Émile et de l'éducation, chez Jacques Rousseau. Je vous le donne en mille. C'est quand même incroyable, vous comprenez ? Il l'avait vu juste. Il faut perdre son temps. Et pour sentir la résonance, la résonance nous apprend à perdre notre temps. C'est-à-dire, au bout du compte, à nous retrouver, parce que c'est une rencontre avec soi-même. Bout du compte, c'est ça, quoi. C'est une rencontre avec soi-même. C'est ça qui est magnifique.
Elle vous apprend à vous demander, surtout en jazz, où vous n'interprétez pas une partition, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir sortir une fois que la résonance sera éteinte.
Alors,
d'où la culture de l'accident. Hein. Je pense que la culture de l'accident est effectivement une réponse, avec évidemment cette difficulté que vous pouvez parfois avoir une telle culture de l'accident que précisément l'accident ne devient plus possible. C'est le cas de Charlie Parker. Et dans ce cas, vous mourrez à 34 ans parce que tout a été dit trop vite.
Oui, alors là, on rentre... Alors, là aussi, il y a encore un autre aspect de la question. Vous voyez, au fur et à mesure, nous avançons, nous creusons comme les mains devant le clavier qui creuse pour extraire. Là, si nous allons plus loin, il y a un autre aspect de la question. C'est le problème du tempo. Est-ce que l'on peut faire sentir l'espace quand le tempo est rapide? Eh bien oui, on peut faire sentir un espace immense dans un tempo vif, avec une sorte d'immense générosité. Et je vous en donne la preuve avec un morceau très étonnant que nous connaissons tous, qui s'appelle My Stones, dont on a la version de Miles dans les oreilles de My Stones. Nous l'entendons.
Il y en a même plusieurs.
Il y en a plusieurs, bien entendu, pardonnez-moi. Mais alors, que fait Fred Hirsch, justement, si nous l'écoutons avec notre oreille de ce soir, comment le son sonne après avoir été donné dans un tempo vif? Et je vous propose le My Stones avec toujours le même personnel, mais nous sommes le 16 et 17 février 1994. Thank you. Voilà.
Enfin, je trouve que c'est encore une chose superbe. Hein.
Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de la partager avec vous.
Et j'ai envie de donner un coup de chapeau à ce batteur que nous avons un peu égratigné tout à l'heure. À mon avis, d'une manière qui n'était pas injuste, ça n'était pas particulièrement convaincant, ce qu'il faisait sur Out of Nowhere. Mais là, il se débrouille très bien. Et nous donne une excellente démonstration de ce point de vue défendu lui aussi par Peter Erskine que je citais tout à l'heure, à savoir que lorsqu'on veut jouer très vite à la batterie, il faut d'abord commencer par jouer moins de coups. Moins de coups à la main gauche, bien sûr, hein, parce qu'il faut bien entretenir la pulsation de la main droite. Mais jouer plus, c'est jouer moins.
Oui, the more is less. Ça, c'est une formule que nous aimons bien, hein, les musiciens de jazz. Il faut apprendre à en faire le moins possible. On en fait toujours trop. Il faut tout le temps élaguer.
Sauf dans des arts qui se proposent d'être baroques. Hein, parce si vous souhaitez que le baroque soit minimaliste, je ferme boutique. Là, je suis plus d'accord du tout. Chacun reste chez soi. Les minimalistes doivent en faire le moins possible, bien sûr. Oui. Les baroques, au contraire, ont intérêt à ce que ça déborde de partout. Le problème, c'est justement ce qui se passe lorsqu'on n'est ni l'un ni l'autre. Et là, effectivement, la règle, c'est peut-être la règle de la décantation, de toute manière.
Alors, il y a une chose. Vous savez, j'en reviens à Liszt, dont la technique me fascine. Mais parce qu'il disait la chose suivante. Il disait que toute technique part du toucher et y retourne. Et en fait, Bertrand Hoth a eu, dans son ouvrage, il avait dit, mais que signifie le mot toucher dans ce cas-là? C'est pas uniquement la couleur sonore, et c'est là où l'espace rentre en ligne de compte. Et il évoquait que ça veut dire aussi l'aisance musculaire. Là, le batteur fait preuve d'une aisance magnifique. Il perle magnifiquement bien. L'aisance du corps tout entier, la souplesse, l'aération du jeu, la sonorité, ça veut dire tout ça. Le toucher, ça englobe la préparation du geste, le mouvement, le son, la résonance et la préparation du deuxième geste. Et tout ça fait qu'il y a un immense cercle qui s'opère entre l'instrument et la personne. Il y a une sorte d'aller-retour qui fait que finalement, on va vers l'autre lorsque l'on joue. C'est ça qui est tout à fait capital. Alors, je voulais terminer avec notre émission, Alain, par un autre morceau qui, lui, est tout le contraire. D'une lenteur. Et alors, c'est un saucisson. Oui. Pourquoi un saucisson? Parce que tout le monde connaît ce thème des musiciens de jazz. Mais là, il est joué d'une manière tout à fait particulière qui illustre nos propos de ce soir. C'est un thème de Sonny Rollins que vous connaissez comme moi, qui s'appelle Doxy. Eh bien, ce thème-là, avec l'éclairage que nous en avons eu aujourd'hui, eh bien, il apparaît d'une manière tout à fait anachronique. Et avant de l'écouter.
Cela dit, c'est un thème qui a été joué très peu de temps en comparaison de Oléo, créé au cours de la même séance de Miles Davis. Hein. Oléo, on le joue encore. Et pourtant, Dieu sait que c'est difficile rythmiquement, Oléo.
Oui. Hein. Oui, oui, oui.
Mais Doxy, bizarrement, qui est pourtant quelque chose de beaucoup plus simple à jouer, de quelque chose de beaucoup mieux assis, a un peu disparu dans les limbes.
Eh bien, pourtant, il est quand même dans le rule book, dans les livres des classiques du jazz, des standards du jazz. Alors, simplement, pour clore notre émission, pendant qu'on va entendre le morceau, et on n'arrivera peut-être pas à la fin parce qu'il est un peu long, il sait toujours, évidemment, Drew Grace et Tom Rainey qui jouent, et nous sommes le 16-17 février 1994. Mais pour terminer, je vous propose une petite phrase d'un auteur qui, je vous le promets, Alain, vous avez vu le livre sur la table du studio, je pense que nous n'avons jamais évoqué cet auteur à Black and Blue en 35 ans de carrière, je crois.
Oui, on serait aux États-Unis, tout le monde saurait qui c'est, hein, parce qu'il est à l'origine de très nombreux mouvements contemporains, de phénomènes de société. C'est-à-dire qu'il a inspiré notamment le retour à la nature, le retour à tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il est un peu un des maîtres à penser du flower power choses-là.
Il a été instituteur, il était artisan, arpenteur, journalier. Son livre est parsemé de citations grecques et latines. Il illustre la vie solitaire et méditative, et je vous donne le texte d'abord, quelques mots, et je donnerai l'auteur après. Le texte dit simplement « Le temps n'est que le ruisseau dans lequel je vais, pêchant. J'y bois, mais tout en buvant, J'en vois le fond de sable et découvre le peu de profondeur. Son faible courant passe, mais l'éternité demeure. Je voudrais boire plus profond, pêcher dans le ciel, dont le fond est caillouteux et plein d'étoiles. Je ne sais pas compter jusqu'à un. Je ne sais pas la première lettre de l'alphabet. J'ai toujours regretté de n'être pas aussi sage que le jour où je suis né. Et c'était Henri David Thoreau. Je vous prête ça à la méditation sur la résonance de la musique que nous évoquions ce
Walden,
soir.
Walden, la Bible de plusieurs générations.
Voilà.
De Fred Hersch, Doxy, ainsi s'achève ce dimanche cette émission. Françoise Corday, Guy Senot, Georges Pagzinski, Fred Hersch, Le Silence, L'Écho du Silence et moi-même, nous vous souhaitons de passer sans encombre de l'autre côté de minuit. Bonne semaine à tous.